Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alors les amis, exceptionnellement pour ces huitièmes de finale à la Ligue des Champions, avec Winamax, on double la cote de votre premier pari. Pour en profiter, suivez le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver et de continuer à vous accompagner tout au long de cette remarquable semaine européenne que le foot français a mérité de vivre. On a eu à l'automne de grands moments, de belles soirées, maintenant ça devient sérieux, place à février. Ce soir, le PSG joue la première manche de son 8ème de finale de Ligue des Champions. Votre prono pour ce soir, vous pouvez me le dire ou pas me le dire. Je sais que 97% des gens voient Paris le faire, mais la cote continue de grimper petit à petit. C'était 1,66 l'autre jour, 1,75 maintenant, 3,50 si vous suivez les cotes doublées sur Winamax. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, penchons-nous sur les 4 matchs de jeudi soir. Et le premier, c'est Shakhtar Marseille, 18h45. Il est un petit peu en décalé par rapport aux autres. Les 3 autres, c'est 21h. Celui-ci, en début de soirée, et c'est un match un peu danger, piège pour Marseille. Ça va pas très fort du côté de l'OM en ce moment. Ça reste bien sûr sur ce match nul contre Metz à la maison, un partout. Défait par Lyon 1-0 il n'y a pas si longtemps. Éliminé en Coupe de France par Rennes. Une seule victoire finalement en 2024, toutes compétitions confondues. C'était un match de Coupe de France contre une N3 le 7 janvier. Au classement, Marseille a vraiment, vraiment chuté, se retrouve désormais 8ème, aucune victoire en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, la série est assez catastrophique, et les places européennes, même si elles ne sont pas totalement hors de vue, elles commencent progressivement à s'éloigner. Il ne faut pas perdre trop d'allure pour cet Olympique de Marseille, qui a aussi un petit peu souffert de la canne des joueurs perdus sur cette période. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué. Cette campagne européenne peut peut-être offrir l'opportunité du rebond. Le Shakhtar, c'est pas fou non plus aussi, faut le dire. Et je ne sais pas à quel point mes pronos seront optimistes sur ces 16e de finale d'Europa League pour les clubs français, round de knockout. Contre ce Shakhtar, je me dis quand même qu'il y a quelque chose à faire. Ils n'ont pas joué un match compétitif, un petit peu comme Copenhague hier dont on parlait, depuis le 13 décembre et leur 6e journée de Champions. Oui, ils en avaient pris 5 d'ailleurs contre Porto. Depuis, le championnat ukrainien s'est arrêté, ils ont joué en gros des matchs amicaux, et ouais, c'est pas forcément très très rassurant. Ça encaisse beaucoup de buts, c'est assez léger derrière, et quand je regarde l'effectif du Shakhtar, c'est plus le Shakhtar que je connaissais il y a quelques années. Il y a pas beaucoup de joueurs que je reconnais, pour être honnête, à part qu'ils ont rapatrié quelques-unes des plus grandes légendes du foot ukrainien. J'ai vu que Chigrinsky était revenu cet été, ok, mais bon, il joue quasiment plus, il a 37 ans maintenant. Pareil pour Yaroslav Rakitski, lui ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est rentré, mais 34 ans, il joue lui, il sera titulaire vraisemblablement, sans doute aux côtés de lui, je m'en souviens aussi, le capitaine, 34 ans aussi, Taras Stepanenko, au milieu de terrain, milieu défensif. La filière brésilienne est encore bien activée, Kevin, Aguinaldo, Neuerton, c'est plus les Marlos, Tyson, Fred entre autres, mais il y a encore des Brésiliens, et il y a surtout la petite pépite, Georgi Soudakov, le jeune Ukrainien de 21 ans, qui lui a un vrai joueur à suivre, le 10, le milieu avancé, joueur sympa. Côté marseillais, beaucoup d'absence, ça c'est un truc, on va regarder vite fait le 11, mais Rongier est toujours pas remis, et ça c'est un gros gros problème pour l'entrejeu de Gattuso, il compte énormément sur lui, il est pas là, et Kondogbia et Verretou sont sans doute out aussi, ça c'est un article qui date d'il y a longtemps, mais c'est encore la situation actuelle. Du coup, au milieu de terrain, ça devrait, j'imagine, ressembler à ce qu'on a vu l'autre jour en Ligue 1, Unai, Harit et Jean Onana, qui avait été plutôt pas mal en plus l'arrivée. Faris Moumbania a marqué aussi sur une passe décisive de Quentin Merlin, donc les arrivées, les recrues qui font du bien. Gigot exclu contre Metz. Il y a une petite rumeur avec peut-être le retour de Chancel Bemba, peut-être qu'il pourrait passer sur le banc. J'imagine que ça ressemblera à peu près à ça, avec Aubameyang sur le côté et Iliman Diaye pas dans sa position préférentielle, aile droite. Mais on espère que l'OM réussira à développer un petit peu plus de jeu que récemment. Ils partent quand même favoris sur ce match, et je pense que ça dit plus de choses sur le Shakhtar, qui est pas un grand Shakhtar, que sur l'Olympique de Marseille. Même ce Marseille qui a gagné un seul petit match en 2024 est quand même favori côté à 2,20, mais la plupart des gens partent quand même sur le Shakhtar. 68% des gens voient le Shakhtar à 3,15. Moi, j'irais plutôt match nul. Je pense que Marseille a quand même les armes pour neutraliser la plupart du temps une équipe qui est pas folle non plus, et ce serait un bon résultat à ramener à la maison pour dans une semaine. Donc ouais, je dirais un partout. C'est le score qui est ici. C'est en plus celui qui est coté comme étant le plus probable à 5,80. Comme d'habitude, vous le savez, si ces cotes vous intéressent et que la partie paris sportif vous intéresse, ça c'était les cotes de Winamax. Et j'en ai parlé un petit peu en intro. Sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, votre premier pari est doublée. La cote est doublée. Vous avez aussi un autre lien si vous voulez une offre plus classique pour parier vraiment sur ces matchs d'Europa League là. Ça, c'est le lien qui vous permet d'avoir votre premier dépôt doublé et 10 euros supplémentaires en cash. Il y a les deux offres qui sont disponibles, je les mettrai en dessous, c'est deux liens affiliés qui me rémunèrent aussi à chaque fois que vous l'utilisez. Donc merci, c'est un bon soutien pour la chaîne. Mais c'est pas essentiel pour kiffer devant le foot, c'est interdit aux mineurs, en général, faites attention. Donc ouais, un match nul de l'OM sur un déplacement pour plutôt se mettre en bonne posture avant le match retour. On commence bien, on commence relativement optimiste. Lens-Fribourg, qu'est-ce que ça va donner maintenant? C'est très équilibré aussi, je pense. Ce Lens-Fribourg, on a des Lensois qui sont très très chauds en ce moment, 3 victoires consécutives contre Strasbourg, contre Nantes, contre Toulouse, ça leur a permis de bien regrimper au classement. Si on voit ici, ils sont passés à la 6ème place, 35 points, finalement ils sont qu'à 4 longueurs de Nice-Dauphin. La saison de Lens a peut-être été ressuscitée grâce à cette bonne passe. Et Fribourg, je veux dire, c'est sans doute le bon moment pour les prendre, c'est un peu l'inverse. Lens est sur 3 victoires d'affilée, Fribourg est sur 3 défaites consécutives, contre Dortmund 3-0 ce week-end, contre Stuttgart, après c'est des bonnes équipes, hein, 3-1. Et contre le Werder Bremen 3-1 aussi fin janvier. Attention, ils sont toujours capables de folie, ils sont toujours capables d'en mettre 5 contre Francfort à Francfort. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont assez fragiles. Sur les 7 derniers matchs qu'ils ont disputés, ils ont encaissé 2 buts ou plus 6 fois. 6 fois sur 7. C'est assez léger et c'est une chose, c'est un petit peu comme le Real Madrid, comme une autre équipe dont on va discuter dans quelques minutes. Tous les centraux sont blessés, j'ai l'impression. La paire de titulaires, Linhart, Ginter, qui est excellente, les deux sont out. C'est aussi le cas des backups, Schmidt, Rosenfelder. Du coup, ça va être assez expérimental ce que met Fribourg derrière. Peut-être qu'on va revoir, comme ce week-end, le français très prometteur Kylian Sildilia, qui est plutôt un latéral droit sur le papier, mais qui a joué central aussi. Il y a aussi un autre latéral français, Jordi Makengo. Lui, je le connaissais pas. Peut-être le frère de Jean-Victor, je sais pas. Mais un gars au milieu comme Maximilian Eggestein, qu'on connaît, qui est un peu une référence en Bundesliga depuis un moment. Ritsu Doan aussi. Et puis, il y a un vrai pilier en la personne de Vincenzo Grifo, qui fait une très très bonne saison. Que ce soit en Bundes, où il a déjà 5 buts et 7 passes D, en Europa League, c'est un peu les mêmes standards, 4 buts, 2 passes en 6 apparitions. La saison dernière, il était le troisième meilleur buteur du championnat allemand avec 15 buts, 5 passes. La saison d'avant, 2021-2022, c'était aussi des stats honorables, si je me souviens bien, assez proche du double-double. Ouais, 9 buts, 7 passes décisives pour lui. Donc voilà, attention à Vincenzo Grifo. Côté Lensois, j'ai une petite hésitation sur le 11. Je pense que Samba, Gradit, Danso, Medina n'est pas disponible, donc ce sera sans doute Aydara, ça, il n'y a pas trop de doutes. Pareil pour Frankowski et Aguilar sur les pistons, bon, on verra. Et Sotoka, Wai, Pereira da Costa pour le trio offensif. Mais ensuite, au milieu de terrain, est-ce qu'on a le milieu qui donne satisfaction récemment, beaucoup plus jeune, un peu prometteur, Nil El Aynaoui et Andy Diouf, ou est-ce qu'on a les gars qu'on a vus à chaque fois en Ligue des Champions, titularisés sur les 6 rencontres de LDC en phase de groupe pour apporter ce supplément d'expérience, et qui étaient à la CAN, donc on les a moins vus récemment, mais ils sont revenus, Nampalis Mendy le Sénégalais et Salis Abdoul Samed le Ghanéen. Peut-être avec ce qu'a fait Francaise en Europe pour l'instant, l'importance d'avoir de l'expérience dans cette zone, peut-être plutôt les gars en rouge finalement. Intéressant à voir, mais Lens a de la réserve, Lens a de la ressource, et en vrai, je suis aussi assez optimiste sur ce match. Mais au moment du tirage, on l'était un peu moins, on disait Fribourg, attention, mais là c'est, je pense, comme on a dit, pas forcément le pire moment pour les prendre. Je vais dire victoire de Lens, à la maison en plus, à Bollard on sait, en Europe aussi on l'a vu cette saison, capable de très très belles choses. Je vais dire victoire de Lens à 1,74, et Fribourg derrière, on a montré à quel point c'est fragile en ce moment, ils ont perdu leurs deux défenseurs centraux titulaires, deux de leurs remplaçants, donc un truc comme 3-1 m'étonnerait pas. Et après, si je devais choisir un buteur, là je suis un peu moins inspiré côté Lensois, Wai plutôt pas mal bien sûr, mais peut-être Vincenzo Grifo, ouais, 31% des gens partent là-dessus, à 5-10. Il est un peu caché là. Grifo, ouais, je tenterai ce petit truc. Ça, c'est donc pour Lens-Fribourg. Ensuite, Benfica-Toulouse. Alors là, ça commence à se corser. Là, les deux dernières rencontres qui nous restent, c'est très très chaud. C'est un match, Benfica-Toulouse, qui a failli être annulé en raison de la grève des policiers portugais. Finalement, ça va se jouer, ça va se tenir. Il n'y aura pas de victoire sur tapis vert pour Toulouse. Et c'est bien, ça fait une autre rencontre de prestige à jouer pour le TFC, quelques mois après avoir battu Liverpool. C'était vraiment dingue. On en avait fait cette longue vidéo, c'était super super moment. Maintenant, ça va pas être facile. Benfica, depuis le 8 novembre 2023, et leur défaite contre la Real Sociedad, cette quatrième journée de phase de groupe de Ligue des Champions, ça a plus perdu un seul match. Une victoire contre le Sporting, ils sont en coude à coude en tête du championnat portugais. Un match nul contre l'Inter en ayant passé 3 buts à l'Inter, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça cette saison. Même si Benfica menait 3-0 à la mi-temps avec un triplé de João Mario, ex-Inter, en plus c'était la belle histoire, donc pour eux c'est plutôt une pilule difficile à avaler. C'est, je crois que ça reste un souvenir amer, mais quand même fondamentalement un bon résultat. Ensuite ils sont allés battre Salzbourg à Salzbourg pour prendre cette place en Europa. Ils ont battu Braga. Aujourd'hui Benfica est leader du championnat portugais, avec une seule défaite en 21 journées. La meilleure défense de très très loin, seulement 14 buts encaissés. Et le secteur offensif est pas mal non plus. Quand je vois, même si c'était juste un 2 partout contre Vitoria, quand je vois les gars qu'ils ont pu aligner ce week-end, le petit Joao Neves, un des joueurs à suivre cette saison, Kokshu, un des gars à suivre de la saison dernière avec le Feyenoord qui était immense, Arsnes, Joao Mario, Rafa Silva et bien sûr Di Maria devant. Pour les rencontres européennes, pas mal de compter sur un gars comme Di Maria. C'est une belle équipe ce Benfica. En tout cas, il y a de bons joueurs. Donc dans un bon soir, ça peut être difficile de les embêter, surtout quand t'es Toulouse et quand t'es ce Toulouse-là, qui est 14e de Ligue 1, qui est à un petit point de la zone rouge du premier barragiste. 4 victoires seulement en 21 journées. L'autre jour, ils sont éliminés en 16e de finale de Coupe de France par Rouen, un club de national, cette longue séance de tirs au but. C'est difficile pour le TEF et je pense que pour eux, l'objectif, c'est surtout de ne pas mourir sur ce match aller pour deux raisons. Déjà, pour envisager de se qualifier, mais aussi pour offrir un vrai match pour le retour à Toulouse dans une semaine. Perdre d'un but, ce serait une bonne chose. Je vois la victoire de Benfica. Franchement, c'est pour moi difficile d'imaginer l'inverse. Ils sont à 1,34. Il y a littéralement personne. Il n'y a même pas 1% de gens qui sont partis sur Toulouse. Pour l'instant, aucune personne n'a misé sur le TEF. AC Milan-Rennes tout à l'heure, c'est un très très gros match. Ça va être une sacrée adversité pour Rennes. Mais ça, je pense que ce serait encore un plus gros exploit pour un club français, pour Toulouse, de faire tomber Benfica à Lisbonne. Espérons qu'ils remobilisent l'énergie de Liverpool. Mais à Anfield, bon, ça s'était mal passé aussi. Je vois 2-0 pour Benfica. C'est à 5,50. C'est aussi la cote la plus probable. Et bien sûr, j'espère me tromper. Et enfin, Milan-Rennes. Je vous ai posé la question sur Twitter. Objectivement, quel est le match le plus intéressant? Shakhtar Marseille a récolté seulement 7,7% des voix. Lens Fribourg 12,9%. Benfica Toulouse 6,8%. Milan-Rennes avec 72,6% des votants est le grand vainqueur. Et pour cause, on a une superbe opposition de Rossoneri. Les Rossoneri contre les Rouges et Noirs. C'est aussi le match qu'on analysera au coup de sifflet final, jeudi soir, demain soir. On parlera des autres rencontres aussi, mais dans le récap, je pense, du lendemain. Bref, ça c'est pour le programme. Mais pour dire que Rennes en ce moment, c'est très très chaud. Ils sont sur une série de 8 victoires, si on compte celle au tir au but contre Marseille en Coupe de France. C'est l'équipe la plus en forme de Ligue 1 en ce moment, et ça leur a permis de remonter très très haut, alors qu'ils étaient dans une vraie mauvaise passe. Aujourd'hui, ben, un petit peu comme Lens, ils sont plus si loin que ça des places européennes, ce qui est un petit peu miraculeux, vu le début de saison. Maintenant, Milan, c'est pas trop mal non plus. Ok, il y a eu cette élimination contre l'Atalanta, c'est pas parfait, mais finalement, ils sont qu'à un point de la Juve et surtout confortablement installés dans le top 4. Ils rejoueront la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est quand même 13 points d'avance sur Bologne. Un tel écart en Serie A sur les 3 premiers et le reste. 47 buts marqués, ça en fait la deuxième meilleure attaque de Serie A. Le problème, c'est qu'ils en encaissent beaucoup trop. 27, c'est la pire défense du top 5 et de très très loin. Et la raison pour laquelle ils en encaissent beaucoup aussi en ce moment, c'est parce que comme pour le Real Madrid et comme pour Fribourg dont on a parlé, c'est l'hécatombe derrière. Tomori, Kalulu, sans doute aussi Malik Thiaw, même si là, il n'a pas la petite croix rouge, sont out. Simon Kjær est très très incertain. Il est touché musculairement, il rate un match sur deux même quand il est là. Caldara aussi et Calabria, le latéral droit, le captain, sont out. Ce qui va donner lieu vraisemblablement à cette ligne de 4 qui est même plus qu'expérimentale. C'est le laboratoire Frankenstein. Terracciano qui a été pris à l'Hellas Vérone, il me semble, cet hiver. Et je crois pas qu'il ait encore joué une seule minute. C'est un très très jeune joueur. Je crois pas qu'il ait joué une seule minute avec l'AC Milan pour l'instant. Devrait être le latéral gauche. Théo Hernandez en défense centrale. Où franchement, il est pas mauvais. Plus haut, pour combler la profondeur, c'est bien. Mais tu perds sans doute un petit peu de son alliage avec Rafael Leao, ce qui est l'axe le plus dangereux de l'AC Milan. Donc il y a un petit truc là-dessus. Tu perds un petit peu offensivement en essayant de te protéger défensivement. Gabbia central. Ok, et Florenzi, ça c'est la ligne de 4. Devant, c'est costaud par contre. Devant, il y a pas grand chose à dire. Tous les gars sont là. Loftus-Cheek est là. Pulisic est là. Raphaël Leao, comme on a dit. Giroud, que je vois marqué. Tijani Reinders. Et là, il y a peut-être une question: qui accompagne Reinders? Adli, Benacer, dur à dire pour l'instant, on verra ce que fait Pioli. Ça reste une bonne équipe si tu regardes surtout la partie droite du terrain. À gauche, il y a une vraie vulnérabilité et du coup, sans doute, un coup à jouer pour Rennes. C'est ça qui rend ce match passionnant, c'est que vu les absences de l'AC Milan et vu la dynamique de Rennes, il peut arriver au bon moment. Ça, c'est le 11 qu'on a vu l'autre jour en Ligue 1 contre le Havre. Omari, Théâtre, ça marche bien en ce moment. Désiré Doué, excellent, 18 ans, joueur, un des joueurs les plus prometteurs, très très sympa et j'ai hâte de le voir à San Siro. Kalimuendo, Martin Terrier, peut-être un petit peu de décrochage pour Terrier, un petit peu de permutation, c'est quand même un beau duo. Bourigeau, Matusiwa, Santa Maria, peut-être une zone avec un petit peu plus d'interrogation et peut-être aussi un Seydou à la place de Doué sur ce poste de latéral droit. Mais ouais, c'est une belle équipe, franchement, ce Rennes-là, c'est une belle équipe, il y a des gars pertinents en sortie de banc, donc il y a peut-être un petit truc à faire, c'est que le match aller. Ce qu'on va dire, c'est que se qualifier contre cet AC Milan, ce serait le plus grand exploit, le plus beau moment de l'histoire européenne de Rennes. Ce serait génial et il y a un vrai engouement. J'ai vu que 8000 Rennais se rendaient à Milan pour aller voir ce match. Je suis allé voir même du côté du site de Rennes, c'est beau, le petit city guide pour vivre pleinement votre déplacement à Milan. Ça fait plaisir et ça te donne envie, ce genre de choses. C'est en gros un petit document PDF qui a été édité par le club pour les 8000 supporters qui y vont, avec des infos sur le cortège, d'où il part, etc. C'est stylé et franchement, amis Rennais, profitez-en au max de votre premier déplacement contre l'Hapoël Tel Aviv avec un seul Rennais. J'imagine que c'est cette photo-là, c'est beau. À aujourd'hui, 8000 au San Siro, magnifique. Magnifique, et donc on se donnera rendez-vous une heure après le coup de sifflet final pour en discuter. Niveau prono, je vois Rennes faire un petit peu le même match qu'a fait Leipzig contre le Real Madrid hier. Très dynamique, très enthousiasmant, le fond de jeu génial, et peut-être là où ça pêche les deux surfaces, le petit déficit d'expérience. Donc pour l'instant, à San Siro, je vois quand même l'AC Milan l'emporter à 1,64, mais je crois que ils peuvent s'en sortir, Rennes peut s'en sortir et rester largement vivant avant le match retour. Je me dis qu'une victoire 2-1 de l'AC Milan te laisse encore toutes tes chances et vraiment c'est le truc que j'imagine. Je pense un petit peu comme on a dit, comme pour Leipzig hier, Rennes peut faire un bon match, mais après en face c'est l'AC Milan, c'est quand même un club qui sort il y a quelques mois d'une demi-finale du LDC, on est sur un pédigré européen et international, même quand tu regardes les joueurs qui composent par exemple la ligne offensive qui est tout autre, il y a plusieurs Coupes du Monde dans cet effectif, il y a de grands joueurs, donc ouais, c'est quand même un autre niveau, mais ce serait pas un mauvais résultat à ramener à Rennes, et si ça finit comme ça, moi je trouverais que c'est une bonne chose. Donc voilà, pour synthétiser, on a le match nul entre le Shakhtar et l'OM à 3,50, Benfica qui le fait contre Toulouse, pareil pour l'AC Milan contre Rennes, mais une victoire lensoise, une au moins, en attendant ce que fait le Paris Saint-Germain ce soir. On verra, mais ça nous donne un combiné total à 13,38. Peu de chances de passer, plus que celui qu'on a fait à 8 l'autre jour, 8 sélections, même si les deux premières, victoire du Real et victoire de City, pas forcément les plus difficiles à sortir. Pour l'instant, on est bon. On verra ce soir, Lazio, Bayern, et bien sûr, PSG, Real Sociedad. Rendez-vous ce soir pour en discuter. Et ouais, passez une très très bonne journée, les amis. On se dit à très vite. C'est une grosse semaine de Coupe européenne. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tout va bien pour vous aussi. Et on se dit à bientôt. Bisous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.